c'est le retour de Boulevard 102.1.
Ouais, ben tel que prévu, la bruine commence à s'installer sur Québec avec les quelques flocons à la limite du fondant. Ça cause peut-être son lot de problèmes sur le réseau routier à 17h07. Audrey.
C'en est une vraiment lourde, là. Si vous êtes sur la capitale, direction est, c'est concentré à la hauteur de Robert Bourassa. Ouest, ça s'est résorbé un peu, mais il y a encore quelques ralentissements, hauteur Laurentienne. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction nord, entre Charest et la capitale, encore difficile. Charest est, hauteur Robert Bourassa. Quelques problèmes à l'entrée des ponts, bien quelques problèmes. Non, c'est encore vraiment difficile. Entre, je vous dirais, chemin Sainte-Foy et les ponts, là, que vous soyez sur Duplessis ou Henri IV, ça roche. Henri IV Nord, ralentissement inhabituel qui persiste entre Charest et la capitale. Plus haut dans le coin de Shannon, devant la base militaire, même ralentissement qu'habituellement sur la route de la Bravoure. Route de Fossambeau. Entre des Érables et de la Jacques-Cartier, ça n'a pas tellement bougé dans les dernières heures. Et pour ce qui est de la 20 direction ouest, c'est surtout, je vous dirais, chemin des îles. Il y a quelques problèmes à la sortie du pont, aussi direction sud, quand vous allez chercher la 20 direction ouest. Autre chose, 88-971-1021, texto.
Un peu plus tôt dans l'émission, on s'est partagé des chiffres qui ont suscité des questions auxquelles nous n'avions pas les réponses sur l'inflation. Mm-hmm. Les Québécois qui ont subi la plus forte inflation au Canada en janvier, entre autres à cause du prix du café et des repas au restaurant, puis c'est encore des hausses hallucinantes.
Alors que le prix du café, dans ma tête, c'est le même d'un océan à l'autre. Tu sais, je comprends qu'ici, l'essence est plus chère, mais il y a toujours bien des limites à ce que tout soit plus cher, que l'inflation soit plus apparente ici qu'ailleurs.
L'indice des prix à la consommation a grimpé de 3 % dans la province de Québec contre 2,3 % pour l'ensemble du pays. Le Québec qui devance toutes les autres provinces. Le Nouveau-Brunswick est deuxième à 2,9 %. La Nouvelle-Écosse, l'Ontario également, respectivement à 2,7 % et 2 %. Pourquoi ça fesse plus fort au Québec que dans le reste du Canada? Non, que les fédéralistes ne nous répondent pas, c'est notre caractère distinct. Faudra trouver la réponse ailleurs. C'est pourquoi on se tourne vers notre ami Francis Gosselin, que vous pouvez lire dans le Journal de Québec, que vous pouvez entendre au 99.5 Montréal et à LCN, et qui est également, accessoirement, docteur en économie. Salut, oui. Francis!
Hello!
Comment ça va?
Ça va bien.
Pourquoi nous? Pourquoi tout le temps, nous autres?
ben, tu sais, j'aime toujours dire, là, on prend ce chiffre-là, là, 3 % là, au Québec, puis 2,3 % ailleurs au Canada, puis tu sais, c'est la combinaison de plein d'affaires, tu sais, fait que de dire ce chiffre-là, tu sais, c'est comme dire qu'il pleut dehors, là, mais tu sais, il pleut-tu beaucoup, fort, pas fort, il fait-tu noir, tu sais, ça dit rien, essentiellement, ce chiffre-là. Ce qu'il faut décortiquer, c'est justement quelles sont les raisons pour lesquelles c'est plus élevé, puis t'en as donné des pistes, là, le café, bon, puis il n'y a pas une si grande différence entre le Québec puis le reste du Canada, on a des petits enjeux de distribution par-ci, par-là, mais là où le bas blesse, évidemment, au Québec, là, c'est quelques petites affaires, mais vous avez sûrement entendu parler que depuis quelques mois au Canada, il y a eu une surproduction dans certaines catégories de logements, par exemple. Puis là, on voit actuellement à Toronto, à Vancouver, le prix du logement diminue, ce qui est quand même pas quelque chose qu'on avait vu
c'est
depuis.
Nouveau, ça, ben
carrément
oui.
Des gens là, qui ont des condos là, qui revendent les condos moins chers qu'ils les ont payés il y a 2 puis 3 ans. Au Québec, on n'a pas réussi à percer le mystère de la caramilk. Et donc, le prix du logement ici continue d'augmenter très rapidement. Puis, tu sais, là, je vous donne, on parle du 3 % du Québec, mais j'aurais envie de vous dire à Québec.
Ouais.
C'est encore pire,
ben
là,
oui.
Le logement. La ville de Québec, on le sait, est une des pires villes dans le pays, là, au Canada, pour l'augmentation du prix du logement. Puis, l'affaire, c'est que quand tu es un économiste et que tu calcules l'inflation, l'inflation est pondérée. Là, c'est-à-dire que selon le poids dans le budget d'un ménage normal, standard, ben, le logement, c'est probablement plus que le café. T'sais. Fait que c'est sûr que si le logement, comme à Québec, augmente de 12 % puis dans la moyenne au Québec de 9 % ben c'est bien plus important que même si le café augmenterait de 100 % pas qu'on s'en fout, mais je veux dire, c'est des grenailles en comparaison. Fait qu'on est très pénalisé par cette dimension-là. La bonne nouvelle, c'est que sur d'autres affaires, genre l'alimentation, On peut évidemment être fâché parce que ça va augmenter d'un peu plus de 5 % cette année, puis ça a augmenté de 5 % l'année dernière. Mais dans le reste du Canada, l'augmentation dans l'alimentation est pire encore que le Québec. T'sais,
Ah
fait que
oui.
sur d'autres catégories de biens, on s'en sort pas si pire. Il y a un autre élément qui est assez particulier. Bon, évidemment, partout au Canada, il y a eu l'effet qu'on continue de ressentir de l'abolition de la taxe sur le carbone qui a mené à une baisse là, de la diminution des prix pétroliers. Le Québec, évidemment, a été un peu pénalisé par ça, mais ce qui est assez particulier aussi au Québec, c'est qu'on chauffe presque exclusivement à l'électricité. Alors que dans le reste du Canada, vous savez sûrement un mononcle qui a encore sa vieille affaire au mazout dans le sous-sol, là, mais tu sais, en moyenne au Québec, on a des plaintes électriques, des thermopompes, tu sais, toutes sortes de systèmes électriques. Et donc, on est beaucoup plus sensible là, quand Hydro augmente de 3 %. Ben, c'est comme tout notre budget énergétique domiciliaire qui augmente de 3 %. Alors qu'ailleurs, ben, leur électricité est plus chère que chez nous, mais elle augmente un peu moins. Puis ils ont eu dans le mazout, puis le gaz naturel, puis un paquet d'autres facteurs, une baisse du prix pour le chauffage, puis la consommation domiciliaire. Fait que ça vient, encore une fois, avoir un impact à la baisse qui est un peu particulier, là, encore une fois, à la géographie puis à la nature de l'énergie qu'on consomme au Québec.
Restons sur la géographie et le pourquoi nous, mais tu as abordé la situation particulière de la région de Québec par rapport
Ouais.
à l'habitation, puis c'est vrai pour le logement, c'est vrai pour les maisons aussi. Pourquoi la bulle persiste dans la région de Québec alors qu'ailleurs, justement, ça commence à se replacer un peu au niveau des évaluations, autant pour les maisons que pour le prix des logements?
Ben, Québec ville est
Oui.
la pire au Canada, mais
Oui.
le Québec province est pas très en bonne position non plus. Puis de manière générale, on a plusieurs enjeux, notamment on a assisté dans les 5 dernières années à très peu de mises en chantier. Donc il y a beaucoup moins d'offres sur les marchés, alors que Toronto, Vancouver, là, les tours, ça poussait comme de la mauvaise herbe. Donc là, ils sont eux, à l'inverse, dans une situation de surcapacité, de suroffre. Pour évidemment cette catégorie de logements-là. L'autre facteur, évidemment, ben, on pourrait dire ce qu'on voudra, Toronto accueille beaucoup plus d'immigrants que Montréal ou Québec. Fait que tu sais, c'est pas tant un facteur, mais Québec-Ville a quand même accueilli pas mal d'immigration. Puis il y a aussi une drôle de, comment dire, de conjoncture. Les gens de Québec préfère nettement l'unifamilial. Et ça, je veux dire, je sais pas pourquoi. En tout cas, je sais pourquoi, là, mais je veux dire, tu sais, on peut remonter aux racines historiques là, du rêve américain, là, mais grosso modo, c'est beaucoup plus difficile de monter rapidement en capacité et en quantité quand tu goûtes à construire de l'unifamilial, parce que ça implique forcément de l'étalement urbain, du dézonage, un paquet d'affaires qui, tu sais, tu peux pas construire des maisons en claquant des doigts comme tu ériges une tour là, de 30-40 étages. Donc, ça rajoute à la complexité de créer de l'offre dans la région de Québec, ce qui fait qu'évidemment, malheureusement, l'augmentation des prix est plus rapide. Puis la dernière chose, on va se le dire, là, puis je sais que c'est plate à entendre, mais Québec était nommément peu cher. Tu sais,
OK.
on part de loin, là. C'était pas cher habiter à Québec. Puis tu sais, Trois-Rivières est aussi aux prises avec un syndrome similaire. Trois-Rivières, où c'était comme la moitié quasiment du prix de Toronto, ben c'est sûr qu'il y a comme un effet de normalisation, de rattrapage. On a vu même pendant la pandémie, là, du monde qui quittait Québec, qui quittait Montréal pour aller s'installer en Mauricie.
Ouais.
Pourquoi? Parce que non, à 500 000, t'avais genre un ranch avec 3 chevaux, là, tu sais, alors qu'à Montréal, t'avais un 3,5 pas meublé, là. Non, mais tu
Ouais.
crois ce que je veux dire? Fait que c'était
Oui.
comme, il y a eu un certain appel, c'est à la marge, mais c'est quand même quelques milliers de personnes qui ont fait ces mouvements-là. Puis ben, cette migration-là vers certaines régions, puis Québec en a été le bénéficiaire démographique, mais ça a fait aussi en sorte que ça crée une pression sur le marché immobilier, puis ça fait augmenter fortement le prix et donc fortement l'inflation, finalement.
Francis, quand on a parlé d'inflation plus tôt dans le show, on a partagé des chiffres aussi d'un sondage de BMO que je trouve intéressant. Puis je veux t'entendre réagir là-dessus. Là, je t'en donne une coupe en rafale. C'est des chiffres canadiens. 74% qui affirment que la hausse de l'inflation a accru leurs inquiétudes quant à l'épargne nécessaire pour leur retraite. 31% qui cotisent moins à l'épargne retraite. 17% qui ont reporté complètement leur épargne retraite. Et 15% des Canadiens prévoient prendre leur retraite à l'étranger. La majorité d'entre eux s'attendent à un coût de la vie moins élevé. Il y a bien des choses là-dedans que je trouve intéressantes.
Ouais, ben, tu sais, je sais pas, c'est un peu paradoxal parce que en
Ouais.
fait, ben, tu sais, je comprends que quand t'es coincé à la gorge, mettre de l'argent de côté, c'est peut-être pas ta première priorité. Tu préfères te nourrir, te loger, te déplacer. En même temps, paradoxalement, je l'explique souvent, dans des périodes comme ce qu'on a vécu là, depuis 2, 3 ans, avoir de l'argent de côté, là, de l'épargne retraite ou tu sais, n'importe quel actif, là, entre guillemets. C'est quand même une bonne façon de se prémunir contre l'inflation. Pourquoi? Parce que regardez la performance boursière depuis 2 ans, regardez la valeur des maisons depuis 2 ans, regardez n'importe quel actif, là, moindrement physique, qu'on pourrait avoir. Dans des périodes comme ça, on aurait envie de dire aux gens, au contraire, mettez plus d'argent dans l'épargne, mettez plus d'argent de côté, parce que c'est ça qui va fructifier, puis
Ouais.
vous...
Encore faut-il en avoir?
Ben c'est ça, fait que c'est comme le paradoxe, c'est que quand on vit des périodes d'inflation, ceux qui ont des actifs puis qui ont les moyens d'en acheter, encore une fois, je parle de l'immobilier, des titres en bourse ou de n'importe quel autre. Tu sais, les gens qui avaient de l'or là, il y a 2 ans là, sont sur une belle lancée. Ben c'est sûr que d'avoir des actifs dans des périodes d'inflation, ça permet d'atténuer l'impact de l'inflation parce que les biens augmentent au même rythme, voire plus rapidement que l'inflation. Fait que oui, ça te coûte plus cher de vivre, mais coudonc, ta maison, elle vaut 100 000 piastres de plus. Fait que tu sais, ça compense. Le problème avec les périodes d'inflation, c'est justement les gens plus jeunes, les gens qui n'ont pas d'actifs, qui ne gagnent pas suffisamment pour mettre d'argent de côté, ben là, ils commencent à couper dans ces postes-là d'allocation, REER, CELI et autres. Puis là, ils sont doublement pénalisés. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, mais en plus, ils n'ont pas l'espèce d'effet de la marée là, tu sais, qui monte, qui fait monter le prix de tout. Et puis c'est pour ça qu'évidemment, il faut absolument et rapidement mettre un terme là, à ce syndrome-là de l'augmentation du coût de la vie parce que ça creuse les écarts entre les riches et les pauvres. Puis là, quand je vois ça, des 74% du monde qui cotisent moins à leur épargne retraite, pour moi, que tu le fasses pas cette année, à la limite, c'est pas tellement grave, mais mon inquiétude, c'est dans 15, dans 20, dans 30 ans, quand la retraite viendra, cette année-ci que tu n'as pas cotisé, tu vas la vivre plus durement, malheureusement.
Hey Francis, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, toujours apprécié.
Pareillement, à très bientôt.
Francis Gosselin, docteur en économie.
Il t'allait dire directeur, hein?
J'allais encore m'enfarger, c'est incroyable, je n'apprendrai jamais. Je suis condamné à refaire et refaire le même lapsus sans fin. Francis Gosselin, qui travaille évidemment du côté du 99.5 à Montréal, LCN, Journal de Québec, et ainsi de suite, 17h19.
On avait reçu des textos qui nous parlaient d'une situation dans le secteur du Collège de Lévis. On a
Oui.
envoyé Mathias aux nouvelles du côté du service de police de la ville de Lévis. C'est une opération qui est préventive en ce moment. C'est un homme qui a tenu des propos dangereux et aurait proféré des menaces envers d'autres personnes. Donc, on a fermé la rue Monseigneur Gosselin. Mais le secteur, en général, n'est pas bloqué. Il n'y a pas de danger pour personne à ce moment-ci. C'est donc pour assurer la sécurité de tous qu'on a choisi de faire ça. Donc, on essaie d'établir un contact avec l'individu pour calmer la situation. Fait que ça explique la présence policière importante qu'il y avait dans le secteur.
Merci. Si on a plus de détails, évidemment, on va vous les donner. Si vous en avez, 418-971-1021. On vous le rappelle, des grosses annonces pour Shinedown, nouvel album qui va arriver à la fin du mois de mai, le 29. Album qui s'intitule Eight, parce que c'est le 8e. Et le 15 juillet prochain, ils seront à leur troisième visite au Centre Vidéotron. Les billets sont en vente à compter de vendredi. Et j'attire votre attention, puis oui, je fais un petit peu de favoritisme, sur le band qui va assumer la
Ah ben oui,
première
hein.
partie
Un des bands.
de Shinedown,
Ouais.
Coheed and Cambria,
Ouais.
Qui est un band, moi, que j'adore, qui a fait une de mes tunes quasiment préférées des 20 dernières années, j'ai quasiment le goût de vous
Ça
dire.
doit faire 20 ans, ouais.
Parce que ça, là... Et de tout ce qui a été fait en rock band, Guitar Hero, ça, c'était la plus le fun à jouer.
Quelle année est sortie cette chanson-là?
99, 2000, 2001?
2005.
2005, OK.
Ouais.
Qui sont les autres groupes? On les connaît-tu? Il me semble qu'il y en a quelques-uns.
L'autre, c'est From... Laisse-moi voir ma feuille. From Ashes to New.
Oui.
Qui va être là. Puis il y a un DJ, DJ Rockfeed, qui va être là aussi comme invité spécial. On le voit de plus en plus, là, d'avoir un DJ qui va commencer en mettant de l'ambiance plutôt qu'avoir une espèce de playlist. Puis c'est vrai que ça fonctionne.
Ouais,
ça réchauffe
idée.
La foule. Mm. Puis je trouve ça beaucoup moins ingrat pour les premières parties. Dans ce cas-ci, c'est des premières parties qui ont quand même un public qui risque d'arriver plus tôt puis de ne pas arriver seulement pour la tête principale du spectacle, là, mais j'aime l'ambiance que ça met d'avoir un DJ dans place.
Shinedown, qui est rendu à 5 extraits du nouvel album, la plus récente est sortie vendredi, Safe and Sound. On jette un coup d'œil à l'actualité la plus fraîche, Véro.
Oui, je vous rappelle ce qui se passe dans le secteur de Lévis. Vous avez été plusieurs à nous signaler une présence policière dans le secteur du collège. C'est une opération préventive. Un homme qui a tenu des propos dangereux puis des menaces. Donc, on a fait un périmètre de sécurité. La rue Monseigneur Gosselin qui est bloquée, mais le secteur en général n'est pas bouclé. Il n'y a pas de danger pour personne pour l'instant. L'objectif, c'est d'établir un contact avec l'individu pour calmer la situation. Je vous rappelle aussi que le service de police de la Ville de Québec demande l'aide de la population pour identifier deux suspects dans un dossier de tentative de meurtre. Ça s'est déroulé dans le secteur du Berger le 8 février dernier. Ça avait quand même retenu pas mal l'attention. Donc, il y a des images qui circulent sur les médias sociaux de la Sécurité publique de Québec. Le premier suspect, un homme qui portait une veste noire sans manches, un coton ouaté foncé, des bottes noires. Le haut du visage est très reconnaissable sur les images de caméras de sécurité que les policiers ont partagées. L'autre portait un coton ouaté noir de marque Bench, des pantalons et des bottes foncées. Je dirais que lui aussi, si quelqu'un connaît, ils vont le replacer, somme toute, assez rapidement. C'est le 681 Agir pour donner des informations qui seront traitées de manière confidentielle aux policiers pour tenter de les retracer. Je vous rappelle que le gros dossier de la journée, ça a été la présentation de Christine Fréchette de son projet de troisième lien en trois étapes avec des phases qui débuteraient très rapidement. Elle était accompagnée de François Bonnardel et d'un nouvel appui en sa faveur, Martine Biron, qui est la députée de Chute-de-la-Chaudière, donc dans le secteur de Lévis. Elle est la voisine de circonscription de Bernard Drainville. Les réactions politiques ont été, somme toute, favorables à cette sortie-là. Quand je vous dis les réactions politiques, je ne vous parle pas des oppositions, mais le maire de Québec, le maire de Lévis, même si le maire de Québec reste sceptique par rapport à la réalisation d'un troisième lien, le fait que dans les premières phases, il y a certains projets de Québec qu'on attend depuis longtemps qui pourraient se concrétiser, ça a quand même été bien accueilli. C'est aussi aujourd'hui que Charles Milliard faisait son premier point de presse à l'Assemblée nationale. Depuis en fin de semaine, il est officiellement le chef du Parti libéral du Québec. Il ne peut pas siéger parce qu'il n'est pas élu.
Il y a une patate chaude à gérer en partant, lui.
Oui,
hein?
Puis il va la gérer plus tôt que tard. La question Marois Risky, qui est députée indépendante, qui elle aussi a recommencé à siéger. Elle n'était pas là avant les fêtes, mais on a pu la voir bien installée à l'Assemblée nationale. Il a rencontré individuellement les 18 membres de la députation libérale actuelle pour connaître leur point de vue. Il maintient par contre que ça restera sa décision, celle qu'il annoncera. Puis au plus tard, vendredi, ça va être terminé. Il aura statué. Est-ce qu'on rapatrie Marois Risky? Souvenez-vous ce qui s'était passé avec l'ancien chef Pablo Rodriguez qui l'avait d'abord suspendu avant de carrément l'expulser. C'est là qu'elle s'est retrouvée députée indépendante. Charles Milliard ira-t-il sur, mon Dieu, ça a fait une onde de choc à l'intérieur du Parti libéral. Les députés ne veulent pas l'avoir, on ne la reprend pas. Ou encore, il va jouer la carte de, hey, c'est la seule députée vraiment appréciée de ce niveau-là.
C'est la seule députée qui activement a lutté contre la corruption au sein de son propre parti.
Dans la perception publique.
Absolument. Puis ça, c'est pas un luxe dont tu peux te passer dans un parti qui a l'image d'être corrompu depuis des décennies. Là.
Exactement.
T'as pas le choix.
Non.
T'as pas le choix de la réintégrer. Sans ça, tu pars avec un drôle de faux pas. Là.
Puis surtout que, tu sais, on s'enligne vers une élection générale à l'automne. Est-ce que vraiment il y a un risque que des députés ne le prennent pas si elle revient? Elle ne se représente pas de toute manière. Fait que ce sera intéressant de voir comment il va gérer. C'est sa première gestion de crise, tout de suite en partant comme ça.
C'est drôle quand même. Hein? Tu pars avec une gestion de crise.
Oui, mais baptême du feu, je pense que dans son cas, alors qu'il part avec un déficit de notoriété tellement grand, ça peut juste bien le servir dans la manière dont il va faire les choses.
C'est une autre raison pour laquelle il ne peut pas se passer de Marois Risky actuellement. Ça passerait un bien drôle de message, puis ça donnerait l'impression que tu punis celle qui a initier des changements qui seraient peut-être pas arrivés autrement. Là.
Effectivement.
T'sais, il est 17h35, un court arrêt au puits, on revient. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.
Gravel avec Boulevard 102.1.
Les trois accords se tapent le gros aréna et quel bon move, les trois accords qui ont affiché complet dans le temps de le dire pour les deux spectacles qui étaient prévus à Québec en avril. Ben à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ah ouais, on se tape l'aréna puis c'est de même que ça marche. Samedi le 17 avril prochain, la mise en vente au grand public qui va débuter ce vendredi 20 février à 10h sur gestev.com. Les trois accords, ça a commencé avec une toune. Puis on s'est dit, hé, hey, bonne! Mais on va se tanner de ce band-là assez vite, hein? Ben, les gars ont réussi à faire mentir les sceptiques et les critiques. Parce qu'au-delà des textes, ils ont développé un style et ils ont été capables de tellement se promener au niveau musical.
Tu comprendrais pourquoi, tu comprendrais pourquoi. Dans mon corps de jeune fille. Dans mon corps de jeune fille.
Si on enlève les Cowboys fringants des 20 dernières années au Québec, c'est probablement le groupe le plus établi que tout le monde connaît et que tout le monde est capable d'utiliser deux ou trois paroles de quelques chansons populaires. La nouvelle tournée qui fait suite au lancement de l'album « Toujours les vacances ».
Mais c'est toujours les vacances. Avec toi, c'est toujours les vacances. Quand on est ensemble, c'est les vacances. Quand on est ensemble.
Fait qu'on vous attend au Centre Vidéotron pour un gros party avec les trois accords, la tournée « Toujours les vacances ». Le show, samedi soir, oh yes, le 17 avril.
Un autre jour à me demander comment je faisais avant.
Et on débute la vente des billets ce vendredi 20 février à 10h sur gestev.com.
Le chemin s'est ouvert dans les fleurs de mon tapis. Car quand ta voix enrobe mon cœur, plus rien d'autre.
Local, naturel et...
Je déteste parler pour les autres. Je peux juste parler pour moi, puis même des fois, j'ai de la misère à me comprendre. Je sais une chose, par exemple. C'est qu'à 22 ans, j'étais pas prêt à aborder des sujets comme la vasectomie avec ma blonde.
Non, mais là, t'étais pas en couple sérieux à 22 ans. Hein?
Ben,
mais même sérieux.
Je pourrais te lancer la question qui est en couple sérieux à 22 ans. On peut philosopher longtemps là-dessus, là, tu sais.
Ben, moi, je l'étais.
Ouais, toi, t'étais dans un couple sérieux.
Il y a des familles qui ont leurs premiers enfants dans ces années-là aussi.
Je cherchais une joke à faire, là, mais je pense
non,
que...
C'est ça,
ouais, non,
la
c'est
joke.
Ça. Ouais, non, c'est...
Je pourrais juste dire que finalement, je suis en couple, tu sais.
T'étais d'un couple sérieux, on a cligné des yeux, t'avais un autre chum. Dis, ouais, non, c'est quoi qui s'est passé là? OK, j'ai fini. C'est une nouvelle qui a retenu l'attention, évidemment. Quelqu'un qui est sorti de l'anonymat, un jeune de 22 ans qui a eu recours à la stérilisation masculine pour épargner à sa conjointe les désagréments de la contraception féminine. Le gars est célibataire depuis, donc ça soulève certains questionnements.
Ben, ça dépend. Si lui veut pas des enfants, tu vas me dire, il va peut-être changer d'idée dans sa vie. Là.
Ouais. Vous y avez parlé ce matin?
Oui, ben, en fait, c'est drôle parce que je vous ai entendu dans le pit stop jaser de ça. J'avais vu l'article passer, puis j'avais comme lâché une perche en me disant que peut-être que c'est pas un sujet qui va tamponner que ça. T'sais. Puis après vous avoir entendu, j'ai relancé en me disant comme, oh non, OK, il faut que ça marche. Fait qu'on l'a reçu ce matin dans l'open mic qui s'appelle Elric Courte manche. Et il est assez clair sur le pourquoi il a fait ça, dans quel contexte, il est conscient des enjeux. Ça a vraiment été intéressant comme échange.
Écoute, moi, depuis que je suis jeune, j'ai jamais vraiment voulu d'enfant. Donc, je me suis dit que ça pouvait toujours changer, mais si jamais c'était pour changer, il y a toujours d'autres moyens de faire des enfants, même s'il y a quelqu'un de stérile dans le couple. Si l'enfant ne vient pas génétiquement de moi, pour moi, ça change absolument rien. Là. Si vraiment la personne avec qui je suis veut que ça vienne de nous, ben ça, je veux dire, j'assume que j'aurais parlé de ma situation dès le début de la relation. Donc, si jamais c'est un problème, c'est une épreuve à surmonter, je m'arrangerais pour que ce soit dit et connu dès le début. Mmh. J'ai été dans une relation depuis, puis j'ai vu quelques personnes. Je te dirais que ça vient relativement tôt. Je me suis fait dire de même mettre ça en évidence, comme quoi j'ai eu une vasectomie sur mes profils Tinder ou quoi que ce soit d'autre, sur des applications, comme quoi ce serait potentiellement même un point vendeur, qu'il y a du monde que ça l'intéresserait spécifiquement pour ça.
Jeune célibataire de 22 ans, vacciné, vasectomisé.
On dirait un caniche qui est en vente dans un chenil.
Ça n'a aucun sens.
Ben, mais moi, tu vois, il a l'air très à l'aise avec sa décision.
Ouais.
Tant mieux, mon Dieu. Là.
Pis...
C'est vrai que c'est vendeur, la vasectomie. Ah. 22 ans, si tu veux fonder une famille pour une fille, moins. Mais tu sais, une fille qui sait qu'elle n'en veut pas pour plein de raisons,
ça
qui rencontre ce gars-là. Parce que tu sais, la contraception pour les femmes, l'impact que ça a, c'est tellement gigantesque. Puis tu sais, on commence à prendre la pilule, on a 14-15 ans, parce que nos mères veulent pas qu'on tombe enceinte.
Ouais.
Puis on vit avec ça pendant tellement d'années que c'est quand tu n'apprends plus que tu vois la différence.
Ah, mon Dieu, je peux vous en parler. Moi, ça a fait un an, jour pour jour, il y a 3 jours que je l'ai arrêté.
Mm-hmm.
J'ai encore des conséquences post-pilule.
Écoute, ma blonde est dans ce processus-là aussi, puis ça n'a pas de l'air d'être le fun, puis ça n'a pas de l'air d'être facile.
Tu sais, moi, j'ai arrêté la pilule il y a relativement longtemps. Mm. Puis avec le recul, Audrey, tu as raison, j'ai eu à gérer le post-pilule quasiment de la même manière que toi. Mm. Moi, après ça a été stérilet, qui ont beaucoup moins d'hormones. Fait que quand j'ai tout arrêté, là, moi, aucun stress, la vie est belle. C'est incroyable l'effet que ça fait de ne pas avoir ça.
Il y a des gens qui se posent des questions sur, il n'y a pas des normes pour la vasectomie puis l'âge. C'est très dur de trouver une clinique qui accepte de vasectomiser des gars de 25 ans et moins.
Tu vois, on a parlé avec lui puis il semblait dire que ça n'a pas été si pire que ça. C'est vraiment juste que les médecins appuient sur le fait...
C'est quoi sa motivation?
Ta motivation, mm-hmm. Est-ce que tu es certain?
Oui, mais ça, je veux dire, dans n'importe quel contexte, mettons un avortement. Les gens qui vont t'encadrer dans une procédure d'avortement, ils vont... te parler, puis ils vont te sensibiliser sur l'importance du geste, puis mm-hmm. ainsi de suite.
Pis, le moteur de la décision.
Puis c'est normal de faire ça. Moi, quand je suis allé me faire vasectomiser, ils me l'ont fait, le speech aussi. Là, t'es-tu sûr? Oui, je suis sûr. C'est où qu'on signe, là, tu sais? Puis qu'on le fasse encore plus avec des plus jeunes, je comprends ça. Mais moi, je veux pas empêcher quelqu'un qui est jeune, d'avoir déjà pris des décisions pour le reste de sa vie. Il faisait la comparaison avec un tatou, puis je trouvais que ça avait de l'allure.
Ouais.
Il y a une affaire sur laquelle, personnellement, je ne le rejoins pas. Moi, puis je ne suis pas capable encore de l'expliquer. Moi, mon enfant, c'est important qu'il vienne
la
de moi.
Tu veux dire. Ouais.
Ouais. Puis ça, j'ai beaucoup de misère à passer par-dessus ça. Je remarque que j'aurais eu de la misère à intégrer chez nous des enfants qui sont pas à moi.
Ah, puis ça, tu le sais pas parce que tu l'as pas vécu.
Non, mais je commence à me connaître.
Mm-hmm.
Pour moi, c'est important. Mes enfants viennent de moi, mon ADN, puis je suis très fermé là, sur mon cercle, ma petite bulle. Pis, mais je suis même pas capable de t'expliquer le feeling. Mais moi, quand je l'ai entendu dire, ah ben moi, ça me dérange pas que ça vienne pas de moi, tu sais, j'ai comme fait.
Ça veut dire qu'il a réfléchi tout bord, tout côté.
Ben oui, oui, absolument.
Puis, tu sais, moi, j'ai parlé de son entourage aussi parce que, tu sais, il y a des familles qui s'attendent à une descendance.
Ça fait arriérer. Quelle horrible pression sociale, là.
Ça fait arriérer comme principe. Mais il y a quand même des parents qui vont réagir à l'homosexualité de leurs enfants par le fait qu'ils n'auront peut-être pas de descendance.
Vrai.
Fait que, veux pas, c'est une question que je me posais. Puis, il était très à l'aise de me répondre que non, dans sa famille, lui, écoute, son père est vasectomisé, puis il a juste dit, ben regarde, ça va se passer de même. Puis je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que ça amène un genre de réflexion sociale sur son cas dans la mesure où dans les statistiques qu'on partageait dans l'article que le journal a fait plus tôt ce matin, c'est 6 % des patients qui ont moins de 30 ans qui se sont fait vasectomiser, mais la majorité ont eu leurs enfants.
Déjà, oui.
Fait que des jeunes garçons qui vont prendre cette décision-là comme mode de contraception, c'est pas tant fréquent, là.
Mais non. C'est possible de réverser la vasectomie. Le taux de succès est modéré. J'ai des gens que je connais qui l'ont fait puis que ça a fonctionné. Ça a été un petit peu plus long. Mmh. Fait que j'imagine qu'ils sont prêts à prendre ce risque-là. Mais tu sais, je trouve qu'on parle de « Oh mon Dieu, ça, c'est un gros choix », alors qu'on parle tellement peu des impacts sur la santé des femmes, les risques sur la santé des femmes. Quand tu prends le temps de lire, là, je suis pas mal persuadée que n'importe quel gars sensible qui lirait tous les effets secondaires et tous les risques pour la santé des femmes de la contraception, ferait comme « Hey, moi, je me fais vacciner, vasectomiser, pardon, demain matin. »
Tu vois, j'y ai demandé « Prendrais-tu une contraception masculine si on était vraiment rendu là? » Parce qu'ils travaillent sur plein de prototypes en ce moment. Ouais, le dernier étant un gel que tu appliques directement sur le corps. Là. Puis il disait,
Les épaules?
Oui. Okay, ouais. Pour vrai, oui.
Pour vrai, ah ouais.
Oui, oui. Il y a des endroits particuliers où l'absorption se fait mieux sur le corps.
C'est vraiment
ça, l'intérieur
des
cuisses,
comme
les
patchs,
épaules. Puis,
OK, parce que moi, je me sers pas beaucoup des épaules. Normalement, c'est plus... La région pelvienne.
Pelvienne. C'est bien ça, c'est la région pelvienne.
Ouais, c'est ça. Okay.
Ben, c'est pas intéressant que tu amènes, mais c'est vraiment sur les épaules. Donc, il y a ça, mais encore là, tu vois, il m'a répondu, Véro, ben, je regarde les effets sur le corps de la femme, puis il faudrait que je m'assure de c'est quoi les effets sur mon corps si je prends ça.
Là, il y a encore l'injustice homme-femme, puis je veux terminer avec ce texto-là. Une auditrice qui nous dit « Les gars de 25 ans et moins ont de la difficulté à se trouver quelqu'un pour une vasectomie à cet âge. Une fille qui veut se faire ligaturer les trompes, même à 39 ans, a dit « J'ai eu de la difficulté, le médecin a refusé.
Ouais. »
Donc, après 8 ans, je suis obligée de reprendre la pilule parce que j'ai des problèmes au niveau de mes règles, puis que le gynécologue ne veut pas m'opérer. Des fois, c'est le fun d'être un gars. Mm-hmm. Il y a des injustices comme ça dans les santé qui ont... selon les genres.
Mais je repose la question dans les deux cas. Tu sais, à l'âge de 22 ans, votre chum arrive puis il dit « Hey, je me fais vasectomiser, embarquez-vous là-dedans. »
Non. Moi, non.
Non?
Non, parce que...
Toi, tu veux des enfants en partant?
Bien, il y a ça, mais tu sais, il faut prendre en compte que la vasectomie, là, c'est littéralement une coupure des canaux. Là. C'est sans garantie de réversibilité. Là. Mm-hmm. Je veux dire, il y a une possibilité, mais il faut considérer aussi que plus l'âge avance, donc plus ça fait longtemps que tu es coupé, moins il y a de chances que la connexion se refasse. Fait que moi, à 22 ans, j'ai un petit chum qui me dit « je suis coupé ». Non.
En même temps, moi, je suis dans le vivre et laisser vivre. Ouais. Là. Tu veux te faire vasectomiser à 22 ans puis tu es sûr de ta shot. Ou tu n'es pas sûr de ta shot puis tu le fais pareil. C'est ton problème, c'est pas le mien. Mm-hmm. Puis j'ai pas. Je suis très vivre et laisser vivre là-dessus. Regarde, ta décision est prise puis c'est ça que tu fais. Good.
Et puis son discours semble réfléchi, ça se tient, c'est pas prêt à la légère. Fait qu'honnêtement, j'ai trouvé ça intéressant d'échanger avec lui.
Mais tu vois, on fait rien que parler de gel contraceptif puis j'ai pas la maturité nécessaire pour le sujet.
Pour la conversation.
À 48 ans. Fait que tu comprends que le sujet de la vasectomie, j'étais pas prêt à l'aborder quand j'avais 22 ans. Je peux te garantir que non.
Pour les gars plus vieux qui ont eu des enfants puis qui en veulent plus, là, je maintiens que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre blonde ou à votre nouvelle conjointe.
Mm-hmm. Moi, je l'ai déjà dit à mon amoureux, là. Moi, j'ai pris ça pendant 15 ans, c'est de la marde. Bon, vivre les deux grossesses, ça va être de la marde. Après ça, puis ma job.
Moi, je suis vasectomisé. Mais ma blonde était bien contente d'avoir du chocolat en fin de semaine pareil. Je sais pas lequel qui a pesé le plus fort dans balance, là. Mais un cadeau, c'est un cadeau. 17h53, on revient.